sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. La prise de son est assurée ce soir par Jean-Benoît Tétu, Régis Nicolas et Pierrick Charles. La réalisation signée Thomas Beau. Et autour de moi ce soir, en direct en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Charlotte Garçon, Muriel Jaudet et Philippe Azoury pour parler ensemble de « À genoux les gars » d'Antoine Desrosières, « How to talk to girls at parties » de John Cameron Mitchell et « Bécassine » point d'exclamation de Bruno Podalides. Boris Pinault est là qui va surveiller les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre vos commentaires ou relayer vos questions aussi sur notre sommaire. Cadeau à gagner en fin d'émission ce soir, des invitations pour les expositions de la nouvelle saison du Palais de Tokyo, Enfance, à découvrir jusqu'au 9 septembre. Nous ouvrons cette émission avec le film d'Antoine Desrosières, À genoux les gars, présenté au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard. On pourrait regretter d'emblée que le film n'ait pas figuré en compétition officielle. Ça aurait été encore plus audacieux. Peut-être aurait-ce permis à la France de figurer au palmarès, mais on ne va pas refaire le match, n'est-ce pas, Philippe Azoury, fan de football. Je vous dénonce tout de suite. Ce n'est que le quatrième long-métrage de fiction du cinéaste qui tourne quand même depuis 30 ans, mais il alterne différentes formes. Desrosières avait précédemment fait tourner Inès Chantilly et Souad Arsane dans un moyen-métrage, Aramiste. Il a eu envie de les retrouver sur un format long, et elles sont d'ailleurs créditées pour la coécriture du scénario du film dont nous allons débattre.
Si moi j'ai le droit de le faire, toi aussi t'as le droit de le faire, t'inquiète pas, on fait que du Alain.
Tu fais quoi avec lui?
Oh, l'important c'est pas ce qu'on fait, c'est ce que ça me fait.
Mais ça te fait quoi?
Si le ciel vous tombe dessus,
oh. Si le ciel vous tombe dessus,
oh,
c'est parce que vous l'avez voulu.
Oh, je sens rien, gros.
Yeah.
Mais wesh,
qu'elle est encore plus chaude que l'eau.
Parce que je stresse un peu.
Une fois tu stresses, je t'étais pas en train de passer un entretien d'embauche.
Un peu quand même, je passe un entretien là. Hein. Un entretien d'embauche à l'amour.
Si le ciel vous tombe dessus.
Si le ciel vous tombe dessus.
Et toi aussi, t'as jamais embrassé personne?
Non. Pas à ma connaissance, non.
Vas-y, dis-moi. Un bon argument pour que je te suive.
Tout le monde le fait, tous les couples le font, tu vois, c'est un truc de fou.
Bah non.
Sinon, on le fait pas, c'est grave, on va être ridicule.
Non, c'est pas un bon argument, ça.
Si le ciel vous tombe dessus.
Si le ciel.
Mais c'est un antidépressif.
C'était dépressif.
Non, mais c'est bon, vas-y, c'est bon, là.
Majute qui s'énerve parce que je l'ai pas sucé. Hein.
Parce que d'habitude, je vais juste faire braguer. Tu fais quoi là?
Bah je vais rejoindre tout ça pour voir.
Mais tu fais quoi? Mais je pensais que c'est des bombes. Mais tu fais quoi? Mais
un genou, les gars. Si c'était un disque, on y aurait marqué sans doute sur la pochette explicit lyrics. On en a entendu un petit peu ici. Ça parle cru, ça parle vrai. Ça ressemble à la façon de parler de jeunes gens de notre temps, même si on est beaucoup plus vieux qu'eux. Philippe Azoury. Ça nous chatouille l'oreille.
Moi, j'ai 14 ans à vie.
C'est beau. On va le laisser dans cet espoir fou.
Dites-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire.
Philippe.
C'est à moi de commencer, c'est ça?
Ouais.
C'est un signal.
C'est un signal.
Je suis un peu lent.
Extrêmement fin.
Je vous voulez pas commencer.
Non, c'est vous qui allez commencer. D'autant que je vous ai lu dans Grazia sur ce film.
Oui. Non, c'est un film c'est pas le film qui est le plus frais en ma mémoire parce que je l'ai vu avant Cannes, donc il y a à peu près un mois et demi.
Deux ans et demi, trois ans.
En nombreux films contenus. Mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Surtout sur l'instant, parce que je pense que c'est un film qui est immédiat, qui a cette puissance-là de punchline, de rapidité, de vivacité, assez extraordinaire. Ça fait quoi? Enfin, vous disiez 30 ans que
87, je crois,
Antoine
Desrosières
y tourne. Le premier long métrage, ça devait être 93, c'était à La Belle Étoile.
Ouais.
Banqueroute, on va presque dire le bien nommé 2000-2001, ouais. Et une sorte de traversée du désert où effectivement ce cinéaste, qui n'est pas vieux, hein, puisqu'il a mon âge,
14 ans,
14 ans. Mais je sais qu'il est à peu près de moi, je suis de 71 ou 72. Pas rond, mais l'année. Antoine Rosière, donc quasiment quelqu'un qui avait disparu des radars.
Il faisait des courts, des moyens métrages.
Il faisait des courts, des moyens métrages. Dans un univers, mais vraiment, mais à la marge de la marge. Et effectivement, sauf enfin, Aramis, qui est un moyen métrage qu'il a fait déjà avec Souad Arsane et Inna Chanti, qui a 4 ans déjà maintenant, en 2014, qui avait un peu tourné, qu'il avait un peu remis en scène. Mais je trouve que cette position d'outsider total d'Antoine Desrosières est passionnante pour le film. Parce que je pense que ce sujet-là, c'est-à-dire donner, enfin, filmer la sexualité d'adolescente, voilà, maghrébine, en France, aujourd'hui, à Strasbourg, d'ailleurs, je pense, pour être très précis, venant d'un cinéaste mâle frisant, et pas que capillairement parlant, la cinquantaine, ça pouvait être vraiment le truc le plus blanc, enfin, ça pouvait être le truc le plus casse-gueule, c'est-à-dire quelque chose qui tient de l'ordre de l'appropriation. Et je pense que la position précisément d'outsider total d'Antoine Desrosières est devenue sa force absolue, parce qu'à ce moment-là, il n'a plus de surmoi qui lui permet d'imposer sa grille. Il pose juste un dispositif à l'intérieur qu'il donne ou qu'il offre, parce que je pense qu'il y a vraiment de l'ordre du don, à Souad Arsane et à Inna Chanti, donc qui sont ces deux actrices, vraiment des actrices, parce que c'est pas deux sœurs, dans le film c'est deux sœurs, mais c'est pas deux sœurs dans la vie. C'était pas des copines non plus, elles ont été castées. Je crois qu'il a trouvé d'abord Inna Chanti, il a mis du temps, il y a 4 ans, donc de ça au moment d'Aramis
pour
trouver Souad, c'est-à-dire pour qu'à un moment donné ça puisse, voilà, que ce duo à la Abbott et Costello ou Ekel et Jekyll puisse un peu fonctionner. Enfin voilà, à un moment donné, ces deux nanas, ces deux filles qui vraiment, mais non, ne se ressemblent pas et arrivent quand même à faire sœur, enfin, voilà, de fiction, et pour leur offrir, non, j'en reviens à
Amélie, on y arrive.
Offrir ce dispositif-là et qu'elles s'en servent, qu'elles puissent s'exprimer leurs idées. Ça, je trouve que c'est la vraie force du film. Et le duo, pas que comique, parce que c'est ça que je trouve puissant, c'est que sous le couvert de la rapidité, quasiment d'une sorte de phrase rap, de punchline perpétuelle, elles disent quelque chose sur la France d'aujourd'hui, elles le disent assez fort. Je sais qu'à Cannes, des gens disaient, mais quand même, c'est une comédie sur un viol, on peut pas. Moi, je pense que le film s'adresse à des gens qui ont entre 15 et 20 ans aujourd'hui. Quoi. Et il s'adresse avec eux, avec leur voix. Lui, il n'est qu'un capteur Desrosières. Le film est peut-être pas assez suffisamment filmé, mais peut-être que c'est qu'il est mieux comme ça, justement. Et il arrive à, voilà, imposer ça.
Alors, il faut dire d'ailleurs que ce tandem, ce duo d'actrices, ont même enregistré une fiction pour France Culture il y a deux ou trois ans maintenant. Mm-hmm. C'est vraiment un tandem qui fonctionne excellemment.
Il y a quelque chose de synergie entre les deux, alors qu'elles sont très différentes. Hein, même,
ah oui, très différentes. J'y viendrai dans un instant. Muriel Joudet, tout d'abord, sur À genoux, les gars.
Oui, je suis beaucoup plus, enfin, moins enthousiaste que Philippe, parce qu'il y a une sorte de malaise, moi, qui s'est dégagé du film. J'avais vu Aramis, et c'est vrai qu'on sent que le malaise est inhérent à ce que veut faire Desrosières. Il veut déstabiliser, jouer sur ces contrastes entre l'exigence de pudeur qu'induit la religion, et puis, d'un côté, l'hypersexualisation, qui obligeait de l'adolescence contemporaine. Et pour lui, cette schizophrénie-là est le sujet de ses films, et pour lui, il y a un sujet. Et c'est très légitime, mais pour moi, ça, j'ai l'impression qu'il est très. Je vois un cinéaste très content de lui-même, avec le sentiment qu'il fait un film subversif, et ses acteurs font aussi partie de cette sorte de contentement. J'ai l'impression que tout le monde se gargarise sur le plateau, et c'est très désagréable. Et surtout, j'ai le sentiment qu'il veut faire une farce, une fable. Qui veut passer au vaudeville, puisque finalement toutes les scènes sont concentrées sur ces quatre personnages et ne font que recombiner. Ces quatre personnages, donc il y en a deux, puis trois, puis une. Et cette volonté de vaudeville ou de fable est pour moi totalement... Enfin, c'est un échec total, puisque j'ai vraiment eu le sentiment pendant tout le film qu'il manquait un pas de côté. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il est vraiment du côté de ces personnages, qu'il filme de façon triviale quelque chose de trivial. Le sujet en lui-même, c'est-à-dire parler une heure et demie de fellation et de personnages qui ne pensent qu'à ça pendant une heure et demie, ne me dérange pas du tout. Mais que le cinéaste soit finalement... n'est pas de regard sur cela, me gêne. Et au bout d'une heure et demie, il y a une sorte d'asphyxie, de malaise, même d'écœurement. Encore une fois, pas du sujet. Hein, c'est pas par puritanisme que je dis ça, mais parce que pour moi, c'est un monolithe d'une heure et demie sur la fellation, filmé par quelqu'un qui n'a pas justement, qui offre peut-être trop de place à ses actrices et qui ne le dirige pas assez. Moi, j'ai Je n'ai pas supporté ces deux actrices, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment en freestyle, comme on dit, elles balancent leur punchline, ce qui nous fait toujours dévier de la croyance en un récit, ce qui, moi, me décolle totalement de la possibilité d'une fiction, d'une histoire, et surtout, le film avance sur des situations très artificielles, très creuses, ce qui me donne le sentiment que ce qui est important pour les personnages ne l'est pas pour moi. Et donc, il y a une indifférence qui commence au bout de 20 minutes, et qui va en s'augmentant au fil du temps. Et surtout, la fin du film, pour moi, est à genoux les gars, hein, le titre révèle un peu ce que c'est. La fin du film est là. Elle est un peu ambiguë pour moi. Je trouve le ton du film très rigolard, surtout sur sa fin. Et ce ton rigolard ne permet à rien d'autre d'émerger. Épuisement total. Et surtout, les actrices, moi, je les trouve vraiment mauvaises. Et elles auraient gagné à être beaucoup plus dirigées et beaucoup plus cadrées. Mais c'est à la fois son dispositif et sa manière de faire. Mais...
Alors, la toute fin, ce n'est pas celle que vous désignez par le titre, quand même. Vous oubliez qu'il y en a une autre fin, mais ça, on y reviendra peut-être de façon cryptée pour ne pas tout divulgâcher, Muriel Joudet. Mais alors, on a bien entendu deux perceptions très différentes, mais juste pour être sûr de bien comprendre, quand vous parlez du contentement que vous sentez sur le plateau, ça se manifeste pour vous de quelle façon ?
Peut-être parce que j'ai su après que les deux actrices avaient participé au dialogue, mais j'ai l'impression que tout le monde est content, surtout les acteurs, de leurs bons mots, de leurs punchlines, et ça se gargarise. Donc c'est vraiment le jeu d'acteur qui produit ça sur moi. Et pour moi, là, il y a un vrai manque au niveau de la direction d'acteur.
Vous savez qu'il y a une tradition qui viendrait presque du stand-up.
Oui, c'est ça. Voilà,
plus que du cinéma, qui du coup, Muriel, vous dérange.
Tout à fait.
Alors, on va écouter Shot Garçon à présent sur ce film d'Antoine Desrosières, À genoux les gars.
Oui, il me semble que toute la méthode qu'a évoqué Philippe Azoury, cette genèse, ce dispositif dont vous parlez, construit un point de vue. Et même si ce point de vue est effectivement n'est pas caractérisé par des mouvements de caméra marqués, par quelconque tentative esthétique de modifier ce qui est devant la caméra, je pense en fait que ça construit un point de vue. Et ça construit d'abord une chose qui est la parole comme théâtre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une logorée de ces deux actrices ou de ces deux personnages.
Les deux rôles masculins, voilà. C'est la même chose.
Et en fait, de tous les personnages.
Quatre personnages principaux.
Et c'est pour ça que ça fait assez penser à Guitry, quelque part.
Ah oui.
Et du coup, à tel point que les décors, la mise en scène qu'on attend habituellement dans un film, donc des marques comme ça cinématographiques, sont mises à distance. Et moi, j'ai l'impression que la parole devient décor. C'est-à-dire qu'on s'installe dans un théâtre qui est vraiment constitué par la parole. Et là où je trouve qu'il y a un point de vue et quelque chose un point intéressant comme une sorte de point de bascule, c'est que du coup, on en oublie le réel, c'est-à-dire ce qui est en dehors de la parole. Et qui peuvent être des actes très graves. Et effectivement, le chantage à la sextape, le viol, enfin toutes sortes de, en fait, un consentement qui est en fait contraint, donc qui n'en est plus un, etc. Qui sont quand même des questions très contemporaines et en particulier dans la jeunesse chez la jeunesse accro aux réseaux sociaux, par exemple. Du coup, ce que je veux dire, c'est que constituer cette logorée comme un théâtre nous fait aussi oublier à un moment qu'il y a des choses qui échappent à cette parole, qui arrivent aux jeunes filles et qu'elles recouvrent immédiatement, qu'elles tentent de recouvrir de mots, de paroles, de SMS, etc. Parce qu'un moment leur a échappé. Et ça, je trouve que c'est, au fond, c'est un peu ça le récit. C'est-à-dire, ce sont des gens qui pensent être dans une maîtrise parce qu'elles ont des mots, elles ont des bons mots, elles ont des bonnes blagues, elles ont un vocabulaire truculent. Sauf qu'il leur arrive aussi des choses qui ne sont pas à la hauteur, je dirais, du côté déluré de cette sexualité qui est mise en théâtre dans la parole.
Oui, mais c'est bien là que je vous rejoins complètement, Charlotte Garçon, que je trouve ça intéressant parce que justement, en recouvrant cette incapacité à réagir, donc par des mots écrits, mais le plus souvent dit, ça fait que davantage pointer ce manquement-là et ce problème-là et cette acceptation qui n'en est pas vraiment une, puisque une acceptation contrainte, évidemment, c'est pas une acceptation. Et moi, j'ai évidemment pensé à Guitry, mais ça, c'est une de mes marottes. Mais le statut de la parole, il est aussi interrogé un peu différemment, parce qu'il y a quand même un cinquième personnage qui interviendra et qui est un taiseux, justement, qui lui est d'emblée saoulé, pour reprendre ce type de vocabulaire, par l'héroïne principale, on va dire, du film, et qui ne cesse de vouloir qu'elle se taise. il va quand même advenir quelque chose entre ces deux personnages, et moi je trouve ça très beau, et je pense que là il y a une qualité d'écriture bien réelle.
Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que sous les punchlines et sous cette logorée verbale, il y a quelque chose qui est qui est très relié à cette génération-là, qui est habitué à la théorie du complot à longueur de journée, c'est-à-dire que ce ne sont plus que des rhétoriques qui se mettent en marche. Et qu'une rhétorique peut être renversée par une autre rhétorique pour arriver justement à la scène dans les toilettes où ils sont quatre.
Ou la scène avant dans le parking.
La scène avant dans le parking.
Qui sont pendants.
Ce sont des renversements de rhétorique avec un moment quasi de mise en abîme de tout, que je trouve assez vertigineux, et qui n'est pas juste de la... pour aller un peu à l'encontre de ce que disait Muriel, qui n'est pas juste de l'ordre du contentement, de genre 1-0, j'ai placé une bonne phrase. Je pense qu'il y a vraiment, quand on dit un portrait de la France aujourd'hui, c'est que ce n'est pas simplement un portrait, ou très peu finalement, ou en pointillé, un portrait sociologique, mais c'est un portrait précisément sur la nécessité pour toute une génération, et notamment plus dans les quartiers, d'être continuellement dans une joute, non seulement verbale, mais de rhétorique, et de dénouer un complot, de déjouer un complot pour le remplacer par un autre, et on arrive à des situations qui sont effectivement complètement fictionnel tout le temps. Quoi. Voilà. Et ça, je trouve ça assez... Enfin, le film le dit, le film le montre, il le met en œuvre. Et ce que fait Soa Darsan, parce qu'elles sont deux, enfin, elles sont supposées être deux sœurs. Il y en a une qui est Inash Shanti, qui est la sœur qui part en voyage.
La grande.
Qui est un personnage qui est plus posé, enfin voilà. Qui part à Auschwitz.
Ouais. En voyage scolaire.
Et oui, mais justement, c'est quand même placé là aussi.
Ouais. Parce qu'elle s'en parle au retour. Moi, ça me fait penser à Larry David, à Curb Your Enthusiasm, Larry et son nombril, c'est-à-dire des situations...
Ça, c'est votre marotte.
Non, mais effectivement, malaisantes, dans lesquelles on ne sait plus si celui qui se filme... Parce qu'il y a aussi cette question, est-ce qu'on voit les actrices proches de leur rôle peut-être dans la vie ou pas du tout. Et donc il y a ce genre aussi de malaise chez Larry David et de politiquement incorrect. Je suis d'accord avec Muriel sur un point. Je pense, quand elle dit le contentement qui se sent, c'est quand même très impalpable, mais peut-être sur une question un peu didactique du film. C'est-à-dire que Aramis, moi, m'avait vraiment fortement marqué. Je le trouvais très dense et très surprenant et sorti un peu de nulle part. Comme on est très proche dans les personnages, on se dit le film est plus long, il y a une intrigue. Le mot farce n'était pas tout à fait une farce médiéval, ça pouvait marcher aussi. Mais là, on sent qu'il va y avoir une campagne, disons, dans les salles, à destination des adolescents, etc. Donc, il y a un pan didactique qui du coup nous met un peu à distance d'une dramaturgie. Moi non plus, je crois assez peu au récit du film, mais je vois plus des scénettes d'agit-prop pour lancer aussi le débat dans le public.
Noël Jodet.
Non, mais c'est vrai que là, je me souviens de cette scène sur Auschwitz, et je me dis, en fait, c'est ça. Ce qui me gêne, c'est que le film dédramatise tout. C'est un peu la logique de ces adolescents, c'est qu'on rit de tout dédramatiser. Un viol, Auschwitz, le chantage.
Bah, ils en rigolent pas, d'Auschwitz.
On sent qu'elle sait pas trop ce que c'est, et donc sa sœur lui fait ils leur ont coupé les cheveux, mais pourquoi ils ont fait ça, c'est bâtard et tout ça. Bon, on est là, ok, c'est censé être drôle, moi je trouve pas ça drôle.
Moi je l'ai pas vécu comme quelque chose censé être drôle.
Moi je trouve.
C'est-à-dire qu'elle est scandalisée, pas pour la bonne raison. Donc
oui,
ça, c'est un autre problème, mais elle trouve ça horrible.
Elles sont à côté de la plaque pour tout. Et au bout d'un moment, ça me paraît un peu systématique. Moi, j'ai pensé, c'est pas du tout la même chose, mais un peu à Breya, pour le côté sentiment entre la pudeur et l'impudeur, la volonté de rester propre, entre guillemets, et la volonté d'y aller et de s'initier à la sexualité. Mais chez Breya, ça passe par la mise en scène. C'est-à-dire que y a une sorte d'érotisation, le plan devient une zone érogène, c'est vertigineux. Et là, c'est vrai que rien ne passe par la mise en scène, absolument rien. On n'est pas excité, bon, je pense pas que ce soit le but du film, mais on n'est pas hypnotisé, il y a rien qui passe. Tout passe par le langage, c'est vrai, c'est un film de langage, mais chez Breya, c'est autrement plus puissant.
C'est pas Fritz Lang, mais je comprends notre désaccord, parce que Catherine Breya, la mise en scène chez Catherine Breya, il faudrait ouvrir le dossier, mais là, c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, notre désaccord est confirmé ici, Muriel Jodet. Mais allez voir par vous-même, c'est toujours ce qu'il faut faire pour les films, pour les livres, pour les disques, pour tout ce dont on parle dans cette émission. Vous pouvez aller voir À genoux les gars d'Antoine Desrosières, qui est sorti dans les salles ce mercredi, à suivre dans la dispute deux autres sorties, je crois, de cette semaine. Vous aviez des réactions, Boris Pinot, sur ce film-là, d'Antoine Desrosières ?
Pas pour le moment.
Pas pour le moment, mais peut-être après cette émission, faites-nous savoir ce que vous en avez pensé également. On va parler dans un instant de How to Talk to Girls at Parties, et puis plus tard, Bécassine.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au cinéma, en public, au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, pour parler donc à présent du nouveau film de John Cameron Mitchell, How to Talk to Girls at Parties. On aurait pu le traduire, hein, comment parler aux filles en soirée, ça aurait marché aussi. Un film lui aussi présenté à Cannes, lui aussi hors compétition, là vraiment hors compétition tout à fait. Un film qui nous fait revenir, pour celles et ceux qui l'ont vécu, en 1977. Louis Pazuri n'était pas né, donc.
14. Je vais pas être partout.
On est en 77 et tout commence par une soirée où trois jeunes Anglais, évidemment punk, c'est le jubilé de la reine, se posent cette question fondamentale. Comment doit-on effectivement parler aux filles en soirée? Mais tout dépend quelle fille et tout dépend évidemment quelle soirée.
God set the queen!
Punk, it's a way of life.
It's like anarchy.
Let's get at the after party.
Hello.
So cool.
They must be from California.
It's gonna be alright, mate. Just speak in short, admiring sentences.
Hello.
Now that is punk.
Do more punk to me.
When do you have to be back?
48 hours.
What are you bringing over for?
I slept at his house, and we engaged in incomplete sexual activity. It's losing its structure.
What is punk, Bodicea?
Smash the oppressor, tell the truth, be an original, blah, blah, blah. I'm boring myself now.
She's not normal. None of them are.
You're just jealous.
If you allow her this freedom, she may rebel.
We have to leave now.
You must choose between this world and our own.
I wish to stay.
Alors, quand on croit aller à une after d'un concert punk et qu'on se retrouve dans une maison peuplée d'étranges créatures, que faire? C'est un peu le point de départ de ce film de John Cameron Mitchell, How to Talk to Girls at Parties. Muriel Joudet, vous commencez? Ça vous fait rire, hein, je vous propose de commencer.
Non, je vais faire comme Philippe Azoury, je vais donner une tranche d'âge pour le film qui irait de 12 à 16 ans.
Pour les spectateurs ?
Oui, parce que c'est...
Ah, vous croyez ?
C'est pour ça que je ne vais pas...
Il est dedans, il est en plein cœur de cible, Philippe, avec ses 14 ans.
Je ne vais pas m'énerver, parce que pour moi, c'est vraiment une petite romance pour pré-adolescents et encore.
Enfin, 12-16, c'est clairement l'adolescence.
Oui, c'est vrai, pardon, je ne sais plus, c'est loin de moi. Et non, je me suis posé une question parce que le film m'a profondément indifféré, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que je me suis demandé devant le film, est-ce qu'il est possible de filmer un courant musical ou un mouvement la contre-culture britannique, française, américaine, sans la dévoyer, sans la vider de son âme?
La réponse est non, mais ça on le sait tous quand même.
Oui, mais le film quand même se complète dans cette esthétique-là, punk, et puis on pense aussi à Orange Mécanique pour les tenues des extraterrestres. Et c'est soit Disneyland, soit une pub pour du gel. Et je suis frappée à quel point... Je réfléchissais devant le film parce que ça ne m'intéressait pas du tout.
Et pas que le gel pour le cheveu.
Oui. Pas très. Oui. Mais...
Il y a un sous-texte dans cette phrase.
Je sais.
J'ai entendu.
Oui, vous avez bien entendu.
Bref, je me suis vraiment demandé pourquoi ça ne passait pas au cinéma. Pourquoi la contre-culture, et peut-être que c'est une bonne question à se poser puisque c'est l'anniversaire de mai 68, pourquoi ça ne passe pas au cinéma? Je mets de côté le documentaire, mais pour moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir un film Disney Channel.
Ah oui, alors ce qui est étrange, enfin, j'entends bien ce que vous dites, mais je crois que ce n'est pas du tout le sujet du film. Mais nous allons
pouvoir
en débattre. Non, mais j'ai eu peur que ce soit ce film-là que vous décrivez pendant les 10 premières minutes. Heureusement, enfin, je dirais pourquoi tout à l'heure, pour moi, il n'en est rien. Charlotte Garçon ?
Oui, c'est-à-dire que le punk est absolument caricaturé, comme l'Angleterre de 1977, Croydon, comme l'accent avec le glottal stop des Anglais. C'est une caricature épouvantable, mais ça dure 5 minutes. Et donc, enfin, on sent
10,
que...
10.
Oui, on sent que c'est l'exposition. Non,
c'est le début.
C'est vraiment le début, et sur ce fond pseudo-punk, très très schématique, j'en conviens.
Muriel s'est endormi au bout de 10 minutes, en fait,
voilà. Il essaye de, ensuite, alors moi, je pense ne pas aimer tellement plus le film film que vous, mais je le trouve effectivement anodin, enfin, mais pas désagréable, dans le sens où, du coup, on ne sait jamais où il va bifurquer, parce que c'est un peu le foutoir, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a de la science-fiction, en même temps, la science-fiction, comme toujours, il y a de la métaphore là-dessous, mais comme dit le personnage joué par Elle Fanning à ce jeune pseudo-punk, parce qu'il est tout gentil, et d'ailleurs il fête sans doute plus le jubilé de la reine de 77 que qu'il n'écoute des disques punk, ou les deux, mais en tout cas elle lui dit, ta métaphore, à un moment il lui parle et elle lui dit, il y a un truc contradictoire dans ta métaphore, mais elle me touche. Et en fait je pense qu'il parle de son film lui-même, le cinéaste, c'est-à-dire qu'il sait que ce qu'il est en train de faire est une espèce de chose très composite née d'une nouvelle ou d'un roman graphique. Les deux, et qui il ça ondoie comme ça, et ça lui permet de faire à la fois une représentation graphique au début du film qui est quand même d'une laideur
horrible. Mais c'est pour ça que j'ai eu très très peur pendant 10 minutes,
et qui vient,
le temps que Muriel s'endorme,
qui vient juste après les logos des différentes maisons de production. Et au début on se dit, mais en fait c'est un logo, mais il est long ce logo, c'est vraiment pas possible. Et en fait non, ça fait partie du travail graphique du film, donc c'est assez horrible. Mais en même temps on voit bien qu'il y a une bienveillance, il y a une sorte de douceur dans ce film. Je pense que c'est pour ça que vous l'adressez au jeune public, vous-même étant très bienveillante envers ce public qui a peut-être besoin en fait d'autre chose cette chose très très sucrée. Et s'il y a une métaphore dans la rencontre avec ces extraterrestres, c'est peut-être aussi celle d'une, puisqu'on ne l'a pas dit, ils sont cannibales, donc c'est peut-être aussi la question de la génération des parents qui en prétendant préserver l'espèce et les enfants, en fait, les mange. Enfin, voilà, doit les manger. Donc, c'est pas des métaphores très fines, de même que dire que quand on est un garçon, quand on est un jeune garçon, les filles viendraient d'une autre planète, c'est pas non plus révolutionnaire du point de vue métaphorique. Mais en même temps, on est assez relativement diverti, disons, par la mise en friction de ces différents petites bulles de décors, de costumes. Et puis, il y a quand même Elle Fanning qui vient, je dirais, charger un peu du bagage de ses précédents films, notamment Twixt de Coppola.
De Coppola.
Et puis The Neon Demon, que moi, je n'avais pas du tout aimé, où elle était figée dans une image très papier glacé de poupée, et dont on sent qu'il essaye de la sortir de cette gangue-là, mais ça ne fonctionne pas forcément.
Mais The Neon Demon, il faudrait qu'on fasse un autre débat. Je me suis dit, en découvrant ce nouveau film avec Elle Fanning, j'aimerais bien le revoir, en fait. Je me demande si on n'est pas passé à côté, finalement.
C'était pas si mal. Hein.
Ouais, bon.
Enfin, mais je pense qu'il a inspiré d'autres cinéastes.
On pourrait faire
cinéastes.
Une dispute spéciale, retour sur des films.
Si on voyait des trucs à 7-8 ans.
À 7-8 ans. Enfin, ils ressortent en salle assez généralement. Non, un peu plus que 7-8 ans.
Pas né, moi.
Oui, il était pas né.
Mais vous saurez que le personnage joué par Elle Fanning dit, moi, en fait, je veux rester sur Terre. Je ne veux plus être... Je veux pas être une touriste, je veux être une voyageuse. Malheureusement, il me semble que le cinéaste nous donne une impression de tourisme.
Rappelons que c'est un cinéaste américain qui filme en plus ce Londres et cette banlieue de Londres de 1977.
Il paraît que sa mère est anglaise.
Oui, enfin bon.
Laissons ça.
Personne n'est parfait. Non, mais c'est vrai que pour parler du pré-générique, j'ai eu très peur aussi, Philippe Azoury, quand j'ai vu marquer Little Punk Production. Pareil. Je me suis dit, oulala.
J'avais déjà envie de partir.
Oui. Bon, mais vous êtes resté, vous.
Oui, moi
vous êtes resté réveillé.
Oui, oui, très bien.
Très bien.
J'avais pas dormi, donc j'étais un peu. J'étais frais. On était, ce que j'ai pu voir votre Instagram, nous on était 4 à 11h du matin. Non, midi 40.
On était 5 à 12h50.
Voilà, dans deux salles, à peu près à 2 km de distance.
Oh, mais quel snob.
Non. Le snobisme, mais pas du tout. Je paye mon billet, j'ai pas la carte de presse, j'ai rien.
On va faire une collecte.
On était 4 parce que c'était désolant dans une salle d'être 4 avec un film que j'aime plutôt bien. J'enlève le casque.
Oui, éviter de l'arsène, hein, parce que non, il faut. Ouais, voilà.
Non, avec un film que j'aime plutôt bien et sur lequel je ne savais rien. J'ai quand même réussi à arriver en salle ce matin, absolument vierge de tout. Je n'avais rien lu.
Moi non plus.
Et j'étais persuadé, à cause du titre, que c'était un teen movie sur. Enfin, un truc à la Judas Apatow où il y avait l'éternel trio avec le bellâtre idiot, le mec intelligent un peu geek et le gros qui fait rire, qui essayait de draguer des filles pendant une heure et demie dans des fêtes.
Moi aussi, je crois que c'était
voilà. J'étais sûr que c'était ça. Bon, ça se passe en 77 à Londres, mal filmé. Bon, c'est pas la première fois que c'est mal
horriblement
filmé.
Mal
horriblement filmé. Quand même très très mal filmé.
Avec des effets terribles. Bon, qui devraient être interdits quand même. Hein.
Voilà, et les effets de flou au début qui reprend à la fin.
Bon, devrait être verbalisé.
Voilà, pas du tout réussi. Et puis progressivement se met en place ce film qui est réellement étrange, qui je pense, d'ailleurs, souffre de ça, de cette non-identification, de même, tu vois, on ne sait pas quel pavillon il bat. Enfin, c'est un film américain, mais qui essaie de réfléchir sur l'Angleterre et qui devient progressivement une sorte de rencontre quand arrive cette scène kubrickienne où il rentre dans cette fête presque on en croirait SM entre le Londres de 77 tel qu'il est soi-disant documenté et ce qui pourrait être aujourd'hui, par exemple, je sais pas, enfin la scène queer à Berlin en 2018 ou enfin voilà, ou même la scène queer à Londres un peu plus tard vers 83 82 83 84. C'est-à-dire que vraiment entre une sexualité très brute, très masculine, très la virilité du punk et quelque chose de beaucoup plus ambigu avec un cinéaste dont effectivement on se met à se souvenir, on se dit, ah mais oui, mais c'est le mec qui avait fait Hedwig, Jane the Angry Witch, ouais, j'ai oublié, dont Short Bus aussi, qui était comme ça, qui est quelqu'un qui est passionné par les sexualités, par les complémentarités des sexualités, et là, le film qui se met en place, qui est un peu comme tous les trois films qu'on va faire aujourd'hui, je crois, à la fois loupé et bien. Je sais pas comment le dire.
Et pour les enfants, selon Muriel Jodé.
Et je suis pas certain que ce soit pour les enfants. Enfin, je crois pas,
mais c'est ouais, pour blaguer sur Muriel.
C'est un fist fucking. C'est un fist fucking au moment qu'on voit, non?
Je crois qu'il y a des instruments.
Non, Elvis Sodomy. Ouais. Pas la même chose. Non. Mais voilà, enfin, je trouve voilà, que le film souffre voilà, énormément de cette non-identification et en même temps, il y gagne une particularité, c'est de dévoluer, de ne cesser d'évoluer et d'être finalement pas du tout une comédie. On va pas, donc du coup, effectivement, ça rate sa cible public jeune qui sait pas du tout ce qu'il va voir, mais qui voilà, je sais pas, sentiment étrange de. Pas si loin au final, j'ai l'impression que des fois le film dialogue plus, plutôt qu'avec les films de Judas Apatow avec lesquels il dialogue pas du tout, ouais. Qui dialoguerait presque avec le moyen-métrage de Bertrand Mandico qui était à Cannes, ou le film de Yann Gonzalez qui était à Cannes aussi, Un couteau dans le cœur qui sort la semaine prochaine. Enfin, j'ai l'impression que c'est des films qui recherchent plutôt de ce côté-là. Vraiment plutôt de la queer culture plutôt que du que de la poche de voilà enfin,
de la pochade.
La pochade.
Moi, je suis d'accord avec vous. Non, juste je vous donne la parole dans un instant, Muriel, mais je retiens ce terme de non-identification parce que je pense que c'est le sujet du film.
Oui.
Donc c'est assez logique que le film soit non-identifiable.
Mais commercialement, le titre est un échec, quoi.
Oui, parce que je croyais voir le film que vous avez décrit. Oui. J'ai eu très peur, donc comme Charlotte, les 10 premières minutes. Mais bon, je trouve. À moitié réussi.
Oui, parce qu'il y a des baisses de régime énormes. Mais quand c'est bien.
Oui, je trouve
même
aussi.
Même la fin, la scène de dédicace, c'est très très beau.
C'est oui, c'est une très belle fin qu'on ne dévoilera pas davantage. Je trouve que Elle Fanning amène quand même quelque chose de très, très rare sur les écrans. Et donc ça, c'est quand même aussi une belle chose. Mais voilà, non-identification. Comme forme et comme sujet.
Par contre, moi qui ai 14 ans, je ne sais toujours pas comment on parle aux filles dans les fêtes. Hein. Enfin,
oui, pas après ce film-là, en tout cas.
Rien appris, absolument, mais rien
appris. Muriel Jodé, vous voulez intervenir.
Non, mais pour parler un peu du film, puisque je ne l'ai pas fait, mais tout en quand même restant sur les décors, c'est que je sens que quand même cette façon de montrer le punk de manière publicitaire rejaillit sur tout le reste. Tous les effets
piste,
et je pense qu'il y a une sorte de malédiction autour de l'Angleterre et de Londres, c'est que ça fait très très longtemps, je pense que ça fait des décennies qu'on n'a pas vu peut-être un bon film qui filme bien la ville, même le pays. Je parle même pas du cinéma britannique, je parle même des cinéastes qui débarquent dans la ville pour la filmer. Il y a une sorte de malédiction. Je reviendrai pas à la phrase de Truffaut sur le cinéma britannique et le cinéma, mais il y a quelque chose qui pour moi un pays qui n'est pas cinégénique et en tout cas. Ça fait des décennies qu'on ne nous a pas prouvé qu'il l'était.
Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas du tout le sujet du film.
Non, mais
pardon, hein, Muriel, mais je pense
parce
que c'est
moi,
ni
ça
le punk,
sur
ni
tout
l'Angleterre,
le reste, sur les sentiments des personnages. Mais quand même, c'est le sujet du film. Il y a un concert à un moment.
Ah oui, mais justement, c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas du tout un film sur le punk, parce que le son est très propre, la chanson aussi, et que donc, évidemment, ce ne sera pas un film sur le punk, parce que sinon, on n'aurait pas un mix aussi, aussi subtil.
On est d'accord. Quasiment du côté de la comédie musicale camp,
oui.
Quoi. Enfin,
oui.
Je pense que c'est vraiment de ce côté-là qui se situe,
Cameron
Mitchell.
Ah, chacun ses névroses. Charlotte Garçon.
Mais on a entendu dans la bande-annonce, le personnage joué par Elle Fanning dit « Do more punk to me ». Je crois que Muriel Jodé aussi réclame plus de punk. C'est vrai que ces scènes de concert sont quand même embarrassantes et on n'en a pas parlé, mais est aussi un peu embarrassante, je trouve, la performance de Nicole Kidman, enfin, qui fait ce
qui est égale à elle-même, voilà, c'est-à-dire assez mauvaise.
qui investit un rôle, qui surinvestit un rôle. C'est-à-dire qu'on lui dit, attention, tu vas être la maman punk, tu vas être la Vivienne Westwood du film, donc c'est ton moment, vas-y sur l'accent, et puis hurle tea break au milieu d'un moment très punk. Et c'est vraiment assez mauvais. C'est-à-dire que là, on a comme une impression qu'effectivement, il y a des acteurs qui sont mis face à face, du coup en rivalité. C'est-à-dire qu'au lieu de se rehausser l'un l'autre, on voit le fossé de qualité de jeu entre la jeune femme et Nicole Kidman, qui est invitée, mais qui compose complètement son rôle.
Je crois qu'il coproduit le film aussi.
Oui, en plus.
Ah oui, bon, bah, écoutez alors.
Mais qui a été, parce qu'il faut le dire, John Cameron Mitchell n'a plus tourné depuis 8 ans. Elle était déjà à la fois dans Rabbit Hole, qui était le dernier film qu'il avait fait. Elle était à la fois l'actrice principale et un peu déjà la coproductrice. Enfin, je pense qu'elle est quelqu'un qui lui permet de tourner. Effectivement, c'est vraiment le
rendant lui grâce pour
le parent le plus
fou,
vraiment la mauvaise fée à l'image du film, parce qu'elle est effectivement caricaturale à un point pas possible.
Muriel,
on a donné le compliment, mais Alex Sharp, voilà, qui joue le gamin, est super.
Bon, Muriel Jodé.
Oui, non, c'est le seul truc qui m'a un peu intéressé après le punk, c'est cette confrontation Elle Fanning, Nicole Kidman, c'est-à-dire qu'elle a sa version rajeunie. Il y a un côté Blanche-Neige. Et voilà, c'est pas grand-chose, mais elle lui dit tu as la peau comme du lait. Il y a une sorte de fascination pour la version d'elle-même qui a peut-être 30 ans de moins. Je trouvais ça assez beau. Voilà, c'est 10 secondes du film, donc.
Ouais. Bon, je vous suis pas non plus, et c'est pas notre soir à nous deux, Muriel, parce que vraiment.
Bécassinari.
Nicole Kidman n'a jamais été une bonne actrice. Elle n'a jamais rien dégagé sur un écran.
Non, mais elle est pas bien.
Lies, cette série qu'elle a pour le coup produite aussi.
C'est une meilleure productrice, peut-être. C'est une grande productrice.
Voilà, moi je pense que Nicole continue la production. Boris Pino, quelques commentaires peut-être sur les réseaux sociaux.
Une virée punk qui passe du feel good movie au trip SF en passant par une romance spéciste délirante, écrit Kevin List. Casting génial, BO aux petits oignons et visuellement dément. Pour Léa Ba, c'est un musical très bien dosé qui ose toujours plus. Le film respire l'amour et la liberté. Le casting est parfait et Elle Fanning magnifique et surprenante.
Bon, il y a des gens qui adorent là dans ce que vous venez de citer, Boris. Bon, la bande son, on va pas s'apesantir là-dessus parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux, Philippe Azoury.
C'est Matt Moss qui a composé la bande son. Ça m'a pas dérangé, non, je la trouve pas si mal. Ce qu'on a entendu derrière, c'est New Rose par les Dames, qui est le premier single punk. Le morceau un peu crowd rock, justement, qu'ils attendent dans la fête, est assez réussi. Ce morceau-là.
Bon, les morceaux.
C'est Bécassine, la bande son.
Bon, vous voulez qu'on passe au sujet suivant?
Il y a de la musique dans le cas.
Et ça, il vous tarde?
Pas forcément.
Pas forcément, mais pourtant, on va quand même y aller tout droit.
On va lui envoyer un DVD de Rude Boy.
Ah,
cher Muriel Joudet, donnez-moi votre adresse.
Si vous voulez voir un vrai film sur le punk. Mais comme les Clash sont compromis en signant chez CBS, comme il est dit dans le film de John Cameron Mitchell.
J'aime bien le personnage des trois, qui font un fanzine, un truc assez touchant. Le gros, là, je le trouve super.
Oui, non, mais ils sont bien tous les trois. Je suis d'accord avec vous. Bon, How to Talk to Girls at Parties, très mauvais titre pour ce film de John Cameron Mitchell, qui est sorti lui aussi sur les écrans mercredi dernier.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Le troisième film au sommaire de cette dispute tant attendue par Muriel Joudet, c'est Bécassine, avec un point d'exclamation, un film de Bruno Podalides, qui aime alterner les comédies contemporaines et les adaptations début de siècle. On se souvient peut-être qu'il a par deux fois adapté Gaston Leroux, cette fois donc la célèbre bande dessinée de Comerie et Pinchon.
Bécassine !
Vous cousez ces initiales RG ici, et sur les autres serviettes, idem.
Oui, madame.
Si tu te débrouilles bien, tu pourras aller à Paris.
Paris.
Tu t'appelles comment, ma jolie?
Loulotte. Et pourquoi ne viendriez-vous pas à la maison?
Nous n'avons plus de nourrice.
Bonjour, Bécassine.
Bonjour, Madeleine.
Bonjour, Mademoiselle Châtel.
On a vu passer trois nourrices en un mois. Alors attention, mademoiselle Bécassine.
C'est l'heure du biberon.
C'est automatique.
Vous payez pas de mine comme ça, mais là, vous embauchez un coin.
Ce soir, un grand spectacle de marionnettes internationales.
Ah, c'est bien. L'argument est un peu faible quand même.
Oh, vous avez ri. Je vous ai vu.
Non, mais j'ai ri parce que c'est stupide.
Il est marionnettiste comme moi, je suis danseuse étoile.
Ah bon? Vous êtes danseuse étoile?
Non.
Monsieur Rastakros m'a promis qu'il reviendra.
Bécassine. Alors j'ai une info, Marine Joudet, on va pas être en désaccord parce que j'ai pas encore vu le film.
Ah, très bien.
On va pas penser là. De toute façon, vous en avez vu aucun des trois ce soir, visiblement.
Ça se voit tant que ça. Il y a la Coupe du Monde aussi en même temps.
Ouais, on est d'accord.
Ah ben parlons-en.
Parlons-en parce que Philippe Azoré est un fou de football.
Non, moi je suis allé voir le film justement hier. Je suis allergique au foot. Je n'ai aucun sentiment nationaliste. Genre la France ou en contre. Donc je suis allé voir le film hier pendant France. C'était quoi, Pérou?
Oui.
Donc, Muriel confirme. Voilà.
Donc j'ai joué la contre-programmation jusqu'au bout. Quoi, voilà. Donc on était quatre, une fois de plus. C'est vraiment un chiffre aujourd'hui dans les salles. Et
Mais c'est pas à vous de parler, ça tombe bien. C'était à Charlotte Garçon. Non, parce que là, vous êtes parti pour nous raconter votre vie qui nous intéresse. Mais, Philippe, mais peut-être moins l'auditoire ici présent.
Il y a une idée théorique au bout.
Charlotte Garçon, bon, Bécassine.
Alors, déjà, je le prends très mal que ce soit moi que vous lanciez sur Bécassine, parce que déjà, ce personnage...
Ça fait trop longtemps qu'on se connaît, Charlotte, pour que vous puissiez le prendre mal.
Je pense avoir lu peut-être un album. Effectivement, j'ai souvenir qu'un album était présent chez moi en enfance, mais j'ai toujours détesté ce personnage. Il ne m'intéresse pas. Je ne comprends pas l'intérêt de revenir dans ce projet à ce personnage, sinon une raison commerciale, voilà, on a égrené Gaston Lagaffe et tous les autres. Il faut en arriver à Bécassine. Et
donc
puisque...
c'est particulièrement intéressant que je vous donne la parole en premier, du coup.
Voilà, mais peut-être, je ne sais pas. Mais non, mais c'est un peu déprimant de voir que, certes, se tourner vers Denis Podalydès pour un personnage début de siècle, on comprend la logique, mais en même temps, c'est le pousser vers son ornière. C'est-à-dire une ornière, quand même, un peu de brocanteur, d'enfant poète dans sa chambre.
Et là, vous parlez de Denis ou de Bruno? Parce que vous avez dit Denis, pardon, mais parce qu'il est jaune dans le film, comme d'habitude.
Ça, j'étais sûre que j'allais faire l'erreur.
Ça aurait pu être aussi... vous aviez peut-être envie de parler de Denis, hein.
Non, alors là, je parle de Bruno, bon. qui en fait, vous avez raison, est présent dans tous les personnages du film. C'est-à-dire que je pense qu'il n'arrête pas, depuis. Alors, j'étais très en colère à ce micro même sur son précédent film, Comme un avion, où de manière assez complaisante, il filmait une sorte de crise de la cinquantaine, hédoniste, pseudo-renoirienne, voilà, qui m'avait...
qu'il y a du pseudo-renoirien, ça peut que vous énerver.
Bon, qui m'avait déplu. Et là, finalement, je le retrouve, lui, Bruno, le cinéaste, dans littéralement tous les personnages. C'est-à-dire que les petites inventions rigolotes, les bricolages mécaniques de Bécassine, c'est lui. C'est évidemment lui qui aime tous ces petits systèmes, la chimie amusante et le bricolage. Le personnage qu'il joue, qu'il interprète lui-même, du battleur, du marionnettiste qui vient dans le village où Bécassine est servante, elle est servante dans un château, et qui vient faire son spectacle de guignol, c'est évidemment lui, avec toujours la mise en abîme de son côté voilà, homme de spectacle, escroc, mais pas trop. Voilà. Et chaque personnage est le personnage qu'il fait jouer à son frère, donc d'homme d'affaires, associé de la marquise, un peu comme ça, un peu pince sans rire, mais finalement qui a quand même aussi un petit peu une réflexion sur qui est finalement l'objet d'une bienveillance, c'est aussi lui. Donc finalement, ce qui m'a dérangé, c'est non seulement qu'on me parle d'un personnage de Candide que je suis censée aimer et dont je suis censée trouver l'idiotie suprêmement intelligente, et je ne la vois pas et je ne comprends pas le propos du film et pourquoi la mettre au centre. Et d'autre part, j'ai eu la désagréable impression de le retrouver, lui, finalement, au miroir, sous prétexte de récits ou de galeries de personnages. Donc voilà, c'est vraiment une expérience qui est assez, je trouve, pénible. Et j'ai eu l'impression que les spectateurs avec moi à la fin du film se sont dit « mais c'est tout ». C'est-à-dire que comme quelque chose qui n'avait absolument pas commencé, mais vraiment... C'est comme si on avait eu un très très long prologue et que le film lui-même n'avait pas commencé.
Vous avez bien commencé cette dispute sur Bécassine, vous voyez. Comme
mais
quoi.
Non, mais c'est une illusion ou...
Alors, et vous passez là-bas, là, Philippe Azoury, ailier gauche ce soir.
Je fais la gueule maintenant. C'est ça, je ne dirai rien. Non, mais effectivement, je suis allé le voir hier et...
Il y avait 4 personnes.
En tout cas, mais surtout, je reprends le film, pendant France-Pérou. Mais il y avait uniquement, donc c'était un public, je ne sais pas, désolé de le dire, enfin, voilà, uniquement composé de vieilles dames. Et,
dont oui, vous.
Dont moi, voilà, mais dont moi. De je m'inclus, je pense que, enfin voilà, il y a une vieille dame aussi en moi, on est tous multiples, dont la vieille dame qui est en moi, qui était là, parce que je n'étais pas devant le foot. Et ça répond un peu au projet, quand même, je me suis toujours demandé en voyant la bande-annonce, pourquoi faire Bécassine en 2018, à qui s'adresse ce film. Et d'une certaine façon, c'est l'inverse. Enfin, c'est-à-dire, le film, c'est exactement à qui il s'adresse. Enfin, les salles d'art et essai, même les salles de cinéma, la journée surtout, enfin, que ce soit à Paris ou en province, sont aujourd'hui quand même essentiellement occupées par le troisième âge. Et il y a un public. Il y a un public là. Mais c'est une sociologie, voilà. Qui est pas la sociologie qui me fait le plus plaisir. Je pense toujours que le cinéma est un art jeune et qu'il a besoin de s'adresser à toutes les couches. Mais là, c'est vrai qu'il y a ce projet-là dont on comprend mal l'actualité. Avec ce rapport que Bruno Podalydès peut avoir, non pas avec l'enfance, mais je pense avec, au contraire, le monde qui s'en va, avec un monde qu'on ne pourra plus jamais filmer. Je pense que c'est la troisième adaptation de Bécassine. Il y a eu un film d'animation il y a une quinzaine d'années, 18 ans. Tout le monde a déjà oublié. Je pense que c'est la dernière fois qu'on pourra l'adapter, Bécassine. Ce monde-là se retire à nous, devient complètement obsolète. De la même manière qu'on ne pourra plus un jour adapter Tintin. Ça n'aura plus aucun sens, ça n'avait rien.
Tant mieux.
Et voilà, ou tant mieux ou tant pis. Enfin, voilà. Mais en tout cas, voilà, ce monde-là disparaît. Je pense qu'il a cette nostalgie-là, Bruno Podalydès, terrible, qui n'est pas l'enfance, donc qui est vraiment le.
Mais un si, goût, c'est un une goût, nostalgie.
Non, c'est,
d'une
un, goût, non, c'est un goût morbide pour le monde qui s'en va. C'est pour l'objet qui se perd. Ça, je pense qu'il est vraiment là-dessus. Avec quand même un souci de vouloir le dépoussiérer. Et il y a un truc comme ça dans le film où il y a le personnage qui est joué par Josiane Balasko, pas mal d'ailleurs, qui s'appelle c'est Châtaigne, je crois qu'il n'arrête pas de dépoussiérer, de taper avec une tablette comme ça sur les coussins pour faire lever la poussière, pour tenter de dépoussiérer. Et le film, je ne veux pas dire qu'il le fait, parce que je pense, une fois de plus, je pense que le film est à la fois bien et complètement loupé, mais il le fait au sens où il le fait bien, il essaye. Au niveau des cadres, au niveau de la lumière, le film est d'un respect de son spectateur assez, assez inouï. Enfin, le film est au cordeau, il est plutôt très très bien filmé. Et qu'on se dit finalement que même dans le sort de jeu que Bruno Podalydès amène, qui est plutôt du côté d'Edouard Baird, on pourrait dire, enfin, c'est plutôt à ça qu'on pense aujourd'hui, on se dit tiens, il est dans une volonté, mais pas de moderniser à tout craint, pas de jouer le contrepoint, mais vraiment de redonner une actualité à ça. Et on voit bien que c'est vain. Enfin, ce personnage est sorti du champ, n'habite plus personne aujourd'hui.
Bah, sauf les indépendantistes bretons qui ont protesté
avant la sortie du film, ne l'ayant pas vu, si j'ai bien compris, sur le fait qu'on puisse instrumentaliser la Bretagne.
Ah non, c'est plus précis que ça. C'est quand même plus précis que ça. Et moi, ça m'a quand même amusé. Je suis contre toute censure avant d'avoir vu les films, évidemment.
C'est mieux alors que j'ai vu.
Non, mais c'est intéressant leur argument. C'est que cette migration des Bretonnes vers les villes, qui est énorme, qui a été énorme au début du siècle, et qui a été massivement dans des postes justement de domestiques, mais aussi prostitution, etc. Et c'est traumatique. C'est traumatique.
C'est une histoire douloureuse.
Pour les femmes de Bretagne. Et donc, ils s'insurgent qu'une fois de plus, la seule fois où on en parle, c'est pour reconduire une vision qu'eux appellent colonialiste de la Bretonne. Parce qu'à l'époque, et c'est ça, je pense, si on voyait le film de 1939 avec Paulette Dubost dans le rôle de Bécassine, on verrait quand même cette marque-là de mépris et de condescendance pour la bonne bretonne, méprisable quand même, parce que idiote, enfin malgré tout.
Il y a 80 ans quand même. Hein.
Oui, mais je veux dire, je ne soutiens pas leur parti pris avant d'avoir vu le film, mais je trouve amusant que le réel quand même et l'histoire s'invitent et viennent dire à Bruno Podalydès qu'il n'y a pas que son petit monde de brocante, voilà, et qu'il y a quand même aussi une réalité, même si c'est dit de manière maladroite, mais parce qu'ils appellent à un boycott du film dans les salles bretonnes, mais en tout cas, je trouve ça intéressant.
Il y a aussi le monde de Muriel Joudet, qui nous intéresse toujours, sur cette vision magique de Bécassine.
Boycott de Muriel Joudet.
Non, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il y avait une greffe qui pourrait prendre entre Bécassine et Podalydès, et c'est plus de l'ordre du match, c'est-à-dire qui va gagner. Parce que je pense que c'est un film de commande. Hein. Je vois
mal qu'on
Podalydès
lui a soumis l'idée et qu'il a eu envie de le faire.
Et qu'il s'est dit, bon, je vais y arriver, moi. Et c'est vrai que toute la question du film, c'est jusqu'à quel point un auteur, puisque Podalydès est quand même un auteur, il a fait des bons films, peut s'emparer d'un sujet, même le plus ingrat possible, pour en faire son miel. Et le problème, c'est que c'est Bécassine qui gagne. Et elle gagne parce qu'elle est totalement inactuelle, que je pense qu'elle ne peut convoquer que de la nostalgie pour l'enfance qu'on a eue, si on l'a connue. Moi, je connais que la chanson de Chantal Goya, Bécassine, hein, je connais rien d'autre.
Vous voulez nous la chanter ?
Non.
D'accord, c'est bien dommage.
On n'est pas à la dispute musique, mais si vous m'invitez à la dispute musique, je vous la chante.
Ah, faut pas me tenter.
Et donc c'est l'émanation d'une vision totalement archaïque.
Quoi mardi prochain?
Il y a France.
Non mais c'est plutôt France Danemark que Philippe Béra. Mais vous pouvez venir à 19h au studio 158.
Il y a Madrid Montigny le Bretonneux.
Bref. Donc on sent vraiment que Podalydès se cogne contre l'impossibilité de réactualiser Bécassine. En tout cas, il y a une sorte de schizophrénie puisqu'il se repose à la fois sur l'image d'Épinal et en même temps il veut la réactualiser, la mettre au goût du jour. Il veut la rendre poétique. Alors moi j'ai pensé à un cinéaste, peut-être que vous y avez pensé, c'est Bruno Dumont, qui lui en tout cas a pas besoin de écrire ses propres scénarios. Et on sent que Podalydès lorne du côté de Bruno Dumont pour ce côté burlesque, asséché, onirisme un peu décalé.
Pour le dernier en date dont j'oublie le titre.
Donc il y a Petit Quinquin. Moi j'ai vraiment pensé à lui, sauf que le film est tellement formaté et surtout il y a cette Bécassine qui, enfin je pense vraiment à l'actrice Emmeline Bayard, c'est atroce qu'elle a joué.
J'allais vous interroger parce que Emmeline Bayard, c'est une belle actrice. Moi, j'ai vu souvent au théâtre. Elle fait des tours de chant.
C'est ça, mais c'est pour ça que c'est quand même quelqu'un. La elle doit jouer Bécassine, quoi. Enfin, c'est-à-dire une fille à la fois maladroite, agile et bête. Et on doit bien l'aimer, mais personne ne la supporte, je pense, dans la salle. Elle est atroce. C'est-à-dire que je sors de la salle, j'ai envie de la gifler. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que là où Podalydès pense qu'on est de son côté, moi, je ne suis pas du tout de son côté. C'est-à-dire que je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai une profonde antipathie pour ce qu'a joué Emmeline Bayard. Et c'est pour ça que je la plains. Et c'est pour ça que la Bécassine est, à mon avis, pas à jouer. Qu'il n'y a qu'une vision très archaïque de la femme qui se situe derrière ça. Il n'y a pas autre chose. Et pour moi, ça relève plus de la misogynie, le film, que d'autre chose.
Alors, sur Emmeline Bayard, Philippe Azoré.
Pour le coup, j'ai un sentiment différent. C'est qu'autant j'ai une antipathie sur le projet, mais le film m'a gagné sur effectivement, je pense qu'il a gagné La vieille dame en moi. Enfin, il m'a gagné sur une forme de tendresse assez, assez insoupçonnée, mais notamment qui passe par elle.
Il y a une forme d'empathie pour Bécassine ?
Pas pour Bécassine, mais pour ce monde qui disparaît, dont elle a une sorte de corps un peu effectivement maladroit, mais que je trouve pas du tout insupportable. Je trouve qu'elle s'en sort vraiment vraiment plutôt bien, parce que le personnage est plus gérable aujourd'hui, et quand même elle arrive à le, par des placements de voix, par une sorte de corps, elle arrive à être juste tout le temps. Ce que moi je voyais, c'était plutôt il y avait cette sorte d'écriture, enfin voilà, qui fonctionne par micro sketch. Donc j'ai fini par comprendre que j'étais très très longtemps allergique au travail des deux frères ensemble, enfin en tant que cinéaste, notamment l'adaptation de Gaston Leroux, parce que le Mystère de la Chambre jaune et le Parfum d'un monde noir, ce sont deux romans qui sont parmi mes préférés ever. Et j'ai été gagné récemment par Comme un avion, parce que, contrairement à Charlotte Garçon, m'avait assez plu, pour que je suis même allé le voir deux ou trois fois. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, c'est cette structure en micro-scène qui finit par fonctionner. Ce qui ne fonctionnait pas chez Gaston Leroux, où on ne pouvait pas le prendre comme alors, c'est une écriture de feuilleton, on pouvait pas le découper, le saucissonner. Là, ça marche parce qu'ils arrivent à rassembler avec des petits morceaux, avec ce sorte de scène de théâtre à un moment donné, enfin de comment dire, Charlotte, une sorte de fête, mais qui est une fausse fête, on peut pas révéler exactement, mais il y a quelque chose d'assez beau là, à ce moment-là, les rythmiques marchent bien, années 30 assez.
Bon, on va amener des sels à Charlotte Garçon, S-E-L-S.
Oui, merci.
Vous avez failli défaillir. Oui. Moi j'aime bien aussi Comme un avion, mais ben bon, c'est pas le débat.
Mais là encore, il y a effectivement cette fête où la marquise doit prétendre qu'elle a des grandes invités de marque alors qu'elle n'a plus un sou, et on fait donc des cut-outs, des personnages en bois qu'on met des silhouettes. Et en fait, là encore, je pense que c'est Bruno Podalydès qui réfléchit sur le fait qu'il fait le film qui fait pas un film très cher, enfin qui fait pas un film de riche, et que lui aussi il peuple avec ce qu'il peut. Donc je pense que chaque situation et chaque personnage ne parle que de lui, et tant mieux à la limite si on n'aime pas Bécassine, mais il assemble aussi ce qu'il veut. C'est-à-dire il y a un peu de Mary Poppins, il y a un peu de la scène de Guignol, des 400 coups, il y a un peu des
théâtre d'ombre,
du poliorama dont il est lui-même collectionneur, c'est-à-dire ces panoramas qu'on regardait comme ça, comme du pré-cinéma, voilà. Donc il y a tout ça. Donc si on veut se réconforter comme dans une couverture, on peut y aller. Mais moi je suis très contente que la semaine de Suzette, qui est le magazine pour jeunes filles dans lequel est né ce personnage, n'existe plus. Donc quand on dit c'est un monde qui a disparu, bah tant mieux que ce monde ait disparu. Et pourquoi ressusciter Bécassine ?
Ouais, il paraît que, je l'ai déjà dit hier, mais que Pif va peut-être sortir, mais sans gadget. Quel est le but ? Boris Pino, dernier mot.
Ça existe, Pif Gadget ?
Non, ça n'existe plus. Mais bon, allez. Ça va peut-être revenir.
Boris.
Alors, sur Facebook, Violette Villard écrit sur une pure loufoquerie cinématographique, poétique et désarmante. Podalides résiste à la mode, au consensus, au voyeurisme du contemporain. Il tient un style, il fait le cinéma qu'il a toujours fait. Braconnier, flâneur, poétique, radical de ce point de vue.
Bon. Je ne sais toujours pas si je vais y aller ce week-end. Le tout dernier mot, très rapide, Muriel Jodet.
Oui, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est un peu l'écoriste, le film. Mais là où je suis d'accord avec Charlotte, c'est qu'en fait, au final, c'est l'anticoriste. Parce qu'on y va pour se dire, heureusement qu'on en a fini avec tout ça. Et c'est très agréable de sortir en se disant, bon voilà, on peut aller voir à genoux les gars.
Bon, enfin, je vais faire pas. Dans l'autre sens, moi, mais c'est vous recommander à genoux
je
les gars.
Je sais, le match, voilà.
Bécassine de Bruno Podalides est en salle depuis mercredi dernier. Alors, je suis curieux de regarder après l'émission le live tweet que Camille André a fait sur cette émission parce qu'il y a eu des propos extrêmement contrastés. Bon, enfin, c'est souvent le cas. Camille, qui nous rejoint toujours pour le jeu de la dispute, rappel de la question d'hier, Camille.
Quel est le titre du premier album solo de Ryoji Ikeda ? Et il s'agit de 1000 fragments.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition de la nouvelle saison du Palais de Tokyo en France, à voir jusqu'au 9 septembre à Paris. La question est ?
Eh bien, l'intitulé de l'exposition « Encore un jour, banane pour le poisson rêve » est inspiré titre d'une nouvelle de Salinger. Quel est le titre exact de cette nouvelle ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter notre émission et vous abonner au podcast. En passant, rendez-vous lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant, une spéciale Montpellier avec le printemps des comédiens et Montpellier danse. Nous serons en compagnie de Lucille Como, Marie-Josée Sirache et Jean-Christophe Brianchon, avec qui je vais donc passer mon week-end pour aller voir Italienne Scène et Orchestre, écrit et mise en scène par Jean-François Sivadier, la conférence des oiseaux de Jean-Claude Carrière, mise en scène Guy-Pierre Coulot, et puis une installation autour de Trisha Brown, ça c'est le côté Montpellier Danse.